Je vais vous présenter une exposition intitulée « L'art brut sans cadre ». L'art brut sans cadre, je précise, s'apostrophe. L'art brut se propose un encadrement, mais on pourrait jouer sur le mot, hein, l'art brut sans cadre, à savoir, il s'agit d'un art qui, en principe, n'a pas le cadre au sens conventionnel où on l'entend. Bref, j'ai été commissaire de cette exposition. Là aussi, il faut préciser les mots. Commissaire, c'est peut-être un peu antipathique, un peu policier s'agissant d'art, mais pour une fois, ça tombe bien, puisqu'il s'agit précisément du cadre, c'est-à-dire de quelque chose qui, en principe, est enferme, est carcéral. L'art brut sans cadre, c'est aussi paradoxal et peut-être un peu frustrant de parler d'une exposition par la voix radiophonique, de causer sur des choses que vous ne voyez pas. Mais peut-être aussi, ça pose un problème intéressant. Hein. Finalement, pendant longtemps, faute d'avoir des reproductions, j'entends dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, faute d'avoir des reproductions, ceux qui avaient le privilège de voir des œuvres ne pouvaient qu'en parler, traduire des œuvres visuelles par la parole. Ça n'est pas si frustrant que ça. Ça me rappelle un ami enseignant qui avait proposé l'exercice suivant à ses élèves. Il avait disposé une affiche qui était tournée vers lui, vers le pupitre, donc que ses élèves ne voyaient pas, il l'avait disposé, une affiche représentant un dessin très compliqué de Louis Souterre, et il avait demandé à l'un des élèves de venir décrire cette affiche. Donc les autres, ne la voyant pas, étaient invités à la transcrire sur une feuille, à dessiner l'image telle qu'on la leur décrivait, à essayer de reconstituer cette image qui leur était traduite non pas visuellement mais par la parole. Et le résultat, finalement, on aurait pu croire que ça aurait été très disparate, que chacun, ce sont les regardeurs qui font les tableaux. Non, ça se rapprochait plus qu'on aurait prévu de l'œuvre dissimulée, ce qui signifie que les mots, finalement, ne sont pas si traîtres que cela. Et si on y réfléchit bien, c'est fou ce que nos émotions, souvent les plus sensibles, les plus tactiles même, les plus sensuels parfois, passent par les mots. Hein. L'amour, la gastronomie, l'œnologie, c'est-à-dire le goût du vin, se traduit par beaucoup, beaucoup de mots. C'est Lacan qui disait c'est à son anti-intellectualisme que, assurément, on reconnaît une crapule. L'anti-intellectualisme, les mots, finalement, ne sont pas si traîtres que cela. Mais il faut que j'en vienne tout de même à cette exposition sur le cadre, en commençant, là encore, par essayer de définir ce mot « cadre hein, », comme on fait à l'école, précisément, quand on a un problème à résoudre, une dissertation à faire, on commence par réfléchir et par bien définir les mots. Cadre, ce qui vient d'abord à l'esprit, c'est que le cadre, c'est un dispositif autour d'un tableau pour le protéger, pour le suspendre, pour le transporter. Le cadre, d'ailleurs, c'est une définition assez restreinte, parce que le cadre, dans cette définition-là, il est relativement récent, il a quelques siècles. Pendant très longtemps, on n'encadrait pas les images. Les images étaient faites sur les parois des palais ou sur les murs des cathédrales. On a inventé le cadre au moment où l'image a quitté ce support architectural, c'est-à-dire grosso modo à la Renaissance. Il y a eu des préfigurations dans l'Antiquité comme toujours, mais le cadre, au fond, date de la Renaissance. Il a d'abord été très ornementé. Il rappelait un peu ce support architectural dont l'image avait été extraite, cadres dorés, souvent même avec des réductions de pilastres, des colonnades, des choses un peu architecturales. Le cadre est d'abord très doré, très solennel, très architectural, et ensuite il se simplifie. Mais il ne se simplifie d'ailleurs pas totalement. Et notre cadre bourgeois se ressent encore de cette solennité-là. Peut-être que l'image s'est déchristianisée, mais elle reste très solennelle. On pourrait faire toute une typologie de l'encadrement bourgeois, n'est-ce pas ? Il y a les cadres bling-bling pour attester du standing du propriétaire de l'œuvre. Il y a les cadres de bon goût, ils sont fréquents, n'est-ce pas ? Le collectionneur veut attester de sa compréhension de l'art. C'est presque un peu... Là, le cadre, c'est souvent, dans notre usage culturel, une petite revanche de celui qui se sent comme un artiste contrarié et qui, faute d'oser ou de savoir faire de l'art, l'achète. Avoir ce qu'on est incapable de faire. Et cette petite revanche, c'est le cadre un peu de bon goût, qui rappelle les couleurs, qui joue avec, qui interfère avec l'image. Il y a encore des cadres, on peut faire toute une typologie, oui, le cadre un peu mesquin de ceux qui n'ont qu'un petit dessin de Picasso, mais alors qui surenchérissent avec Marie-Louise, un énorme cadre pour l'agrandir, etc. Au fond, le cadre pourrait relever d'une pathologie. Et c'est bien pourquoi le livre que j'ai écrit en relation et en préparant cette exposition s'appelle « Pathologie du cadre ». Là encore, il faut expliquer les mots, c'est intéressant. « Pathologie du cadre », ce « de », qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est le cadre qui est pathologique, qui relève de la maladie mentale ? Ou est-ce que c'est le cadre qui exerce une fonction d'éclairage sur la folie ? Le « de » en français, c'est intéressant, il est réversible. Si on dit la peur des souris, est-ce que c'est parce qu'on a peur des souris ou est-ce que c'est les souris qui ressentent de la peur ? Ben, pathologie du cadre, c'est la même chose. Et je serais enclin à dire que c'est le cadre tel que les auteurs d'art brut le pratiquent qui nous amène à un regard pathologique sur notre encadrement bourgeois, qui est un encadrement de revanche et de frustration contre les artistes. Nous tenons les artistes à part, nous avons des remords à leur égard, et l'encadrement, c'est presque une dette que nous essayons de payer, une sorte d'expiation par rapport à l'art. Bon, tout ça pour dire, on n'est pas encore pénétré dans cette exposition « L'art brut sans cadre ». Je parlais de la définition du mot « cadre », définition la plus matérielle, la plus simple, n'est-ce pas, la bordure en bois. Mais le cadre, plus généralement, ça veut dire, c'est une limite entre un intérieur, c'est-à-dire l'image, et un extérieur, c'est-à-dire la réalité. Alors là, si on avance cette définition-là, limite entre l'imaginaire et le réel, là, les choses se compliquent. Cette limite, elle est proprement humaine déjà. Les animaux n'ont pas de monde symbolique opposé au réel. C'est l'homme qui fantasme, qui rêve, qui crée ce monde irréel. Cette duplicité entre Homo demens, l'homme de la folie, l'homme de l'imagination, et Homo sapiens, l'homme du réel, de la rationalité. Eh bien, c'est cette limite, c'est ce qu'elle détermine, c'est ce dualisme, cette espèce de division qui est celle de l'être humain en général. Alors, au fond, si, et même toujours en jouant sur les mots ou en les analysant, ce mot « cadre », il est spécifiquement francophone, c'est-à-dire que cadre en français, ça vient de quadratus, ça vient du latin carré, ça veut dire quelque chose qui est angulaire, orthogonal, l'angle droit. Ça n'est qu'en français qu'il y a cette étymologie et cette connotation du mot cadre. Parce qu'en allemand, on dit rame, en italien, on dit la corniche, en anglais, on dit the frame. Il n'y a pas du tout de notion d'orthogonal, d'angle droit, de carré. C'est le français. Peut-être il est plus rationnel que les autres langues. C'est le français qui impose un peu cette idée de disciplinaire, de cadre et d'angle droit. Mais si on adopte une définition plus souple, moins angulaire du cadre, eh bien, on devra se ranger à l'idée que le cadre, primitivement, est ovale. Le cadre initial, la naissance même du cadre se confond avec la naissance de la vie. La naissance de la vie, c'est la première cellule vivante. Et une cellule se définit par cette membrane ovoïde qui sépare un intérieur d'un extérieur. C'est là le premier cadre. Et ça n'est pas sans rapport avec l'art brut, parce que les auteurs d'art brut, qui sont souvent attachés ou commencements les plus lointains, les plus archaïques, eh bien, dans l'art brut, il y a beaucoup de formes ovales, très souvent s'inscrivant dans la feuille de dessin qui est rectangulaire, eh bien, il y a des figures ovales qui résistent à l'encadrement. Et là aussi, les auteurs d'art brut nous amènent à nous interroger justement sur ce format orthogonal, qui est celui du dessin, mais qui, si on y réfléchit bien, est celui de toute notre culture occidentale. C'est incroyable ce qu'on est orthogonalisé, et c'est ce qui nous distingue d'autres cultures traditionnelles primitives, où ne serait-ce que le village, l'environnement est circulaire, ovoïde, ou en tout cas n'a pas cette forme tellement orthogonale. Même dans les villes très anciennes, les maisons se développent, l'urbanisme se développe de proche en proche comme une végétation, sans suivre du tout de circuit orthogonal. Donc au fond, l'art brut nous amène à nous interroger sur cette espèce de rigueur de clôturale qu'est l'angle droit. Nous naissons, naître, c'est précisément passer de l'ovale, c'est-à-dire de l'utérus, à un lit d'hôpital qui est rectangulaire. Et toute notre vie, jusqu'à notre mort, nous mourrons aussi généralement dans un lit rectangulaire, ou en tout cas dans une tombe faite spontanément d'une manière rectangulaire, après avoir mangé sur des tables rectangulaires, baisé dans des lits rectangulaires. Il y a du rectangle partout, il y a du rectangle dans notre tête, dans notre sexualité, il y a du rectangle partout. Et c'est ce contre quoi les auteurs d'art brut résistent. Et l'exposition dont j'ai été le commissaire, que j'ai organisé, commence précisément par une section qui s'appelle la cellule originaire. À ce propos, en organisant l'exposition, j'y hésitais. Au début, je me disais que cet encadrement, les auteurs d'art brut ont pour particularité de ne justement pas obéir à notre modèle culturel du cadre orthogonal. Ils ont toutes les conceptions possibles de l'encadrement, sauf ce modèle normal. Donc j'aurais pu, et j'ai été tenté au départ, d'insister sur l'anarchie. Chacun a son cadre. Je pourrais même vous interroger un à un, vous les auditeurs, quelle est la limite que vous tracez, vous, entre votre intériorité et votre extériorité ? La limite corporelle, la limite mentale, psychologique ? Est-ce que vous êtes fusionnel ou non ? Quel rapport avec votre famille ? Est-ce que vous êtes défensif ou en état d'assimilation politiquement, etc. Tracer cette limite, c'est déjà se définir individuellement. Dis-moi comment tu t'encadres et je te dirai qui tu es. Donc c'est là encore quelque chose que nous enseigne l'art brut, c'est tout d'un coup avoir un regard sur ces délimitations que nous faisons aussi spontanément que M. Jourdain fait de la prose, sans nous interroger là-dessus. Donc cela pour dire que dans un premier temps, j'ai été tenté d'insister sur l'hyper-individualisme des auteurs d'art brut, à chacun son cadre, et de montrer qu'on entre dans une pluralité totale. Mais on s'y serait perdu. Et en fait, essayer de s'initier à cette philosophie visuelle de l'encadrement, c'est quand même essayer de cheminer, d'ordonner encore. Et je me suis aperçu qu'il y avait tout de même, malgré les différences, qu'il y avait des familles. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé bon de grouper les auteurs d'art brut selon leur tendance, leur conception du cadre. La première section que j'ai déterminée, je l'ai dit, c'est la cellule originaire, c'est-à-dire ce premier moment de la cellule. Il y a un auteur d'ailleurs très significatif. Ces œuvres, elles sont facilement descriptives, c'est simplement des œufs très beaux, en aplats, mais très sensibles, un peu comme des peintures de Rothko, des œufs qui se dessinent dans le cadre de la feuille. C'est un homme très, très simple, c'est un trisomique calour, hein, grave, essaye d'inscrire cet ovale auquel il reste attaché, qui est sa naissance, son moi le plus archaïque, dans ce cadre rectangulaire qu'on lui offre quand on le fait dessiner sur des feuilles de format rectangulaire. Et cette tension entre la forme ovoïde, spontanée, vitale, archaïque, prototypique, et d'autre part, le format désespérément rectangulaire, c'est un peu ça pourrait être l'emblème de cette exposition, n'est-ce pas? S'inscrire dans notre cadre culturel avec tout ce que ça représente de tension. Dans cette section, je ne peux pas ne pas parler de Judith Scott, qui est, elle, alors, un cas encore plus lourd, trisomique, sourde, muette. Elle avait une sœur jumelle qui, elle, était normale. Ses parents, ça se passe à Oakland, en Oklahoma, ses parents ont cru bon de dissimuler son existence, de la placer dans des institutions, sans même en parler à sa sœur normale, pour ne pas l'handicaper elle aussi. De sorte que pendant 50 ans, cette femme est restée écartée de la société dans des institutions, et c'est seulement à 50 ans que sa sœur jumelle normale a appris son existence, l'a libérée de ses institutions, lui a offert la possibilité de s'exprimer dans un atelier d'expression libre, et là elle s'est mise à faire des sculptures étranges. Presque effrayantes, comme des poupées d'envoûtement. C'est de grosses sculptures. Et cette Judith Scott, elle a comme pulsion la kleptomanie. Elle chaparde n'importe quoi, un téléphone, un aspirateur, etc. Et elle l'enrobe, elle dispose de pelotes de laine, c'est ce qu'on lui donne parce qu'elle aime bien, et elle enrobe ces objets de laine de sorte que ça devient des formes, je dis formes, mais c'est justement informe, ça devient des entités effrayantes dans un sens. On se demande ce que c'est. Elle a pour pulsion de, on pourrait dire, d'encoconner, de mettre dans des cocons tous les instruments de notre culture. Et bon, c'est pas facile d'interpréter ces œuvres, mais je crois que cela signifie un retour, justement, un retour au cocon. Tout se passe comme si la vie pour elle avait été une telle horreur qu'elle n'a d'obsession que de retourner dans l'œuf originel, que de retourner dans l'utérus, dans le paradis perdu. C'est un peu ce qu'elle nous montre. Je me demande d'ailleurs, en voyant ses œuvres, si nous-mêmes, qui sommes nés, c'est-à-dire qui sommes tous des prématurés, hein, c'est la définition de l'être humain, c'est la prématuration originelle. Au contraire de n'importe quel animal, un chevreau qui se met debout au bout de quelques heures et qui marche au bout de quelques jours, eh bien nous, les premières années, nous y passons en chaise roulante, aux soins intensifs, nous sommes originellement des handicapés. Et j'ai l'impression que cette première immersion dans le réel hostile est tellement invivable que nous ne nous en souvenons pas. Qui se souvient des deux ou des trois premières années de sa vie? c'est mon hypothèse, c'est une telle horreur pour les fœtus, les prématurés que nous sommes, que nous réagissons par une amnésie hystérique. Enfin bref, c'est la question que nous posent ces auteurs d'art brut qui, eux, en restent au commencement. Et peut-être ça, c'est intéressant, ce caractère d'attardé, régressif. C'est un art, effectivement, d'attardé. Mais dire cela, ça n'est pas amener un regard péjoratif. Cet attardement des auteurs d'art brut, il est très riche. Cela signifie qu'on a des auteurs qui, au contraire de l'homme normal, qu'on empresse d'exiler de son enfance, n'est-ce pas, l'enfant lui-même, que demande l'enfant? Sortir de l'enfance. C'est Cocteau qui disait ça, c'est notre seul, c'est de devenir conducteur de locomotive ou médecin ou n'importe quoi. Eh bien, les auteurs d'art brut, eux, s'attardent et cultivent ces moments, explorent ces régions que nous avons passées à toute vitesse en TGV. Eux, ils s'y arrêtent, ils l'explorent. C'est un monde en friche, c'est le monde de la petite enfance que nous ne connaissons pas, tout simplement parce que nous l'avons quitté trop vite. J'interpréterai beaucoup d'œuvres d'art brut de cette manière. C'est la culture d'un monde qui nous est beaucoup plus étranger que les régions les plus exotiques. D'ailleurs, est-ce qu'il y a encore de l'exotisme? Il n'y a plus d'ailleurs sur la Terre. Mais il reste un ailleurs qui est finalement beaucoup plus familier qu'on ne le croit. C'est l'ailleurs de cette enfance que nous avons passée trop vite, que nous n'avons même pas vraiment bien connue. Donc, parler d'un art enfantin, dire comme certains visiteurs, mais mon enfant de 3 ans ferait la même chose, ben chiche, redevenons des enfants de 3 ans, si c'est possible, et c'est une gageure. Donc, cela pour dire que cette production de personnages que... On aurait raison de considérer comme des handicapés, c'est sûr qu'ils sont handicapés par rapport à la vie, par rapport au social, on est obligé de s'occuper d'eux, mais il y a une contrepartie de cette infériorité physiologique ou mentale, il y a une contrepartie, c'est-à-dire la connaissance d'un monde que nous, les normaux, auquel nous n'accédons plus. Je passe, puisqu'il faut quand même passer à la section suivante. La section suivante, je l'ai intitulée « Le cadre incarcérateur ». Alors là, on a affaire précisément aux auteurs qui se sont heurtés à l'encadrement social, l'encadrement mental, l'encadrement carcéral souvent, qui se concrétise par l'internement dans un hôpital psychiatrique, eh bien, qui vivent douloureusement cette incarcération et qui, à défaut de pouvoir s'en libérer réellement, la représentent symboliquement, en prennent l'initiative. C'est une des ressources humaines, n'est-ce pas, quand on est victime d'un traumatisme. Eh bien, notre ressource, c'est souvent de le répéter, d'en prendre l'initiative, d'être effectivement au départ de ce qui nous est ordinairement imposé. Et effectivement, dans l'art brut, on trouve souvent des auteurs qui se heurtent à l'encadrement qu'ils représentent, et même qui insistent sur l'encadrement, comme pour pouvoir s'en rendre maître. Au lieu d'en être les victimes, ils en deviennent les instigateurs. Souvent, ils réagissent par des encadrements internes, par des ornementations de cadres, qui sont d'ailleurs souvent sublimes, n'est-ce pas ? Tant qu'à faire, puisqu'on est à l'intérieur des parois d'une prison, ornons les parois de cette prison. Ça fait des fois penser à ce que la manière dont Jean-Jacques Rousseau définissait l'art, notre art, dans notre culture, il disait, notre art, c'est les guirlandes que nous avons imaginé de mettre sur nos chaînes. L'art, c'est-à-dire les guirlandes sur nos chaînes. On peut même se demander si aujourd'hui les guirlandes ne sont pas devenues aussi encore plus laides que les chaînes. Enfin, ça, c'est une autre question. En tout cas, on a affaire dans une grande partie de ces, chez beaucoup de ces auteurs d'art brut, de cette espèce de revanche qui veut que, à l'intérieur de l'encadrement social, les auteurs d'art brut se refassent un petit encadrement. C'est d'ailleurs très enfantin, n'est-ce pas ? Souvent, c'est un jeu enfantin de se refaire une petite cabane. On met quelques chaises, on se refait quelque chose comme un intérieur à l'intérieur de la chambre pour refaire sur le mode du jeu ce que les adultes nous infligent sur le mode éducatif. Donc on a beaucoup de ce que j'ai aussi pu appeler dans l'exposition des cadres gigognes, des cadres à l'intérieur des cadres. Il y a par exemple un auteur qui a été enfermé dans un hôpital psychiatrique dans les années 30-40, c'est-à-dire des années où l'hôpital psychiatrique, c'était encore réellement une prison. C'est le psychiatre lui-même, Thomas Szasz, qui disait « Les hôpitaux psychiatriques sont les camps de concentration de nos guerres civiles informulées ». Et effectivement, à l'époque, pire que les prisons, il y avait les hôpitaux psychiatriques. Et beaucoup de ces auteurs d'art brut conçoivent leurs œuvres comme des contre-violences symboliques. Et je parlais de ce Paul End, on ne sait même pas son vrai nom, parce qu'à l'époque, on croyait bon de dissimuler les noms des internés, donc on ne conservait que leurs initiales. Paul End représente au fond ce qui est sa vision, son imaginaire, à savoir des clôtures qui se répètent à l'intérieur, mais aussi ce dont ils pouvaient disposer, des images, ce dont disposaient les personnes internées, à savoir les vignettes du dictionnaire ou les images qu'ils pouvaient trouver dans les journaux. On commençait à mettre dans les hôpitaux psychiatriques des revues pour leur montrer quand même des images, illustrations, par exemple, des choses comme ça, où il y avait des reproductions de peinture. Donc, ce Paul End représente à la fois la clôture, la prison, la porte et la fenêtre de prison, et en même temps, tout d'un coup, ces images un peu people de souverains ou de grandes peintures. Il y a une sorte d'explosion d'images dans des encadrements qui s'ajustent anarchiquement, et à voir ces images faites dans les années 30-40 par Paul End, eh bien, on voit la préfiguration du pop art. Tout se passe comme si Paul End avait investi sa propre disposition mentale, qui était schizophrène, il faut bien le dire, c'est-à-dire une division, un esprit plus compartimenté encore que le nôtre, comme un point de vue sur le monde, et comme si sa schizophrénie à lui anticipait quelque chose qui est notre schizophrénie d'aujourd'hui, à savoir ce bombardement d'images, le passage que nous faisons avec de plus en plus de brutalité de l'imaginaire au réel, la pub, l'information, la réalité, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est imaginaire, il y a une réversibilité, une sorte de bombardement d'images aujourd'hui que les artistes pop ont traduite à partir des années 60, eh bien, tout se passe comme si certains schizophrènes, comme Paul End, avaient pressenti cela, ou en tout cas comme si leur schizophrénie avait été au diapason, ou même à la préfiguration. On a l'impression des fois que l'art brut est une sorte d'écho inversé. Les choses s'y répercutent avant de se produire dans la réalité, comme si la folie avait été quelque chose comme une accélération, une anticipation. Au fond, ça me fait penser aux souches que les inventeurs de vaccins cultivent pour accélérer la vie des virus. Ben, est-ce que la folie ne pourrait pas être comparable à ces laboratoires d'accélération virale qui anticipe la réalité elle-même? Ben, voilà une question que nous pose aussi l'art brut. Je continue avec une section d'exposition où j'ai pensé bon de confronter Les deux auteurs vedettes de l'art brut, peut-être vous diront-ils quelque chose, Aloïse et Wölfli, qui sont l'inversion l'un de l'autre, deux folies qui semblent être en symétrie inverse. Aloïse, d'abord, qui a été une femme d'une très forte personnalité, une grande amoureuse, une grande chanteuse, une grande militante. Elle était antimilitariste, elle luttait contre les injustices sociales, elle croyait bon d'alerter les gens dans la rue, ce pourquoi on l'a tenue pour folle ou on l'a internée. On l'a éconduite de toutes ses aspirations, elle a été enfermée, on peut vraiment le dire, abusivement. Il y a de quoi devenir folle, elle l'est devenue. Et après des années de réaction agressive, où elle injuriait tout le monde, elle a commencé par ses médecins, elle a fini par trouver la ressource du dessin, et elle a compensé cette vie incarcérale, cette vie dont on la frustrait, par l'imaginaire, par un opéra grandiose qui allait d'image en image, et qui, pour elle, devait la rémunérer de ce qu'elle appelait le monde ancien d'autrefois. Donc il lui fallait rêver, halluciner, aller d'image en image, et le support de son imagination, parce qu'il fallait bien la concrétiser, c'était les dessins. Elle dessinait, et quand elle avait fini un dessin, elle en prenait un autre, comme elle ne disposait pas de feuilles de grand format, elle le cousait, de sorte qu'elle allait de feuille en feuille, et on aurait pu dire que potentiellement, elle couvrait l'univers entier de ces images. Ça fait penser à la nouvelle de Borges que vous connaissez peut-être, où c'est l'empereur de Chine qui aimerait une carte de la Chine. Il réunit les cartographes les plus éminents, mais il n'est jamais content, cet empereur de Chine. La carte n'est jamais assez précise, il faut l'agrandir, que tout y soit. Si bien que la carte devient tellement grande qu'elle finit par couvrir la Chine elle-même, par se confondre avec la Chine. Eh bien, on a presque là la métaphore de l'œuvre d'Aloïse, pour qui le défi de l'existence, c'était de couvrir le monde, de le conjurer par l'hallucination. Donc, dire cela, c'est dire qu'elle veut reporter le cadre de l'image à l'infini, n'est-ce pas ? L'image doit couvrir, doit devenir aussi extensible, plus que la Chine, elle doit devenir aussi extensible que la réalité, donc elle ne doit pas être encadrée. Aloïse repousse le cadre de feuille en feuille, potentiellement sur le monde entier, c'est là sa folie. Je dis qu'elle s'oppose à Wölfli, parce que pour lui, Wölfli, la disposition mentale est inverse. Wölfli a eu une vie épouvantable, enfant à Berne dans les années 1870. Il a été orphelin, son père était alcoolique, sa mère prostituée. Orphelin à 5-6 ans, on l'a placé dans des fermes, il n'a pas quasiment pas pu aller à l'école, on le battait, on l'exploitait, on le violait, enfin, bref, vie épouvantable. Et au fond, c'est une vie qui se traduit surtout, en tout cas, il l'a vécu comme ça, par l'absence de père, l'absence d'un modèle à la fois d'autorité et d'affection, enfin, le père à la fois physique, parental et symbolique. Et au fond, son dessin consiste à retrouver quelque chose comme un encadrement paternel. Donc lui, au contraire d'Aloïse, c'est le cadre dont il a besoin. De sorte que le cadre, il le répète. Il le répète par extension. Il ornemente tous. Il a ornementé sa cellule qu'on a détruite scandaleusement dans les années 1980. Il a ornementé son armoire, des paravents, des choses comme ça. Et quand ça ne lui était pas possible de multiplier cet encadrement centrifuge, eh bien, il allait à l'air à l'intérieur de sa feuille et tout sa production, c'est de l'encadrement. Les figures elles-mêmes qu'il trace déterminent par leurs intervalles de nouvelles figures. Au fond, il va de cadre en cadre et c'est cette obsession du cadre retrouvé qu'il cultive dans ses dessins. Donc, cela pour dire, il faut bien que je conclue, que chacun de ces auteurs invente sa propre conception du cadre et nous apprend surtout que le cadre, ça n'est pas simplement un dispositif physique, c'est une limite existentielle que ça répond chez eux, chez ces auteurs d'art brut, à quelque chose comme une nécessité vitale. C'est presque une manière pour eux de survivre, d'affronter une réalité qui leur a été hostile. C'est une manière de se construire. Et en même temps, ils communiquent leur encadrement, leur construction cadrale, ils la communiquent, ils nous invitent nous-mêmes à nous interroger sur notre propre encadrement. Je crois que c'est une expérience forte. Donc je reviens en parler, c'est un peu bizarre effectivement de parler d'œuvres que vous ne voyez pas, mais que vous verrez, j'espère, en venant à Lausanne visiter la collection de l'art brut. Mais je ne sais plus qui disait... commenter l'art, c'est mettre des barreaux à une fenêtre. Ce que je trouve un peu faux. Je dirais justement que commenter, parler de l'art, c'est mettre plutôt un encadrement à une fenêtre. C'est nous inviter à un regard autre, à un regard un peu structuré, à un regard auto-réflexif. Auto-réflexif, ben... Je finis par ce mot, justement un peu intellectuel, mais je le répète, c'est à son anti-intellectualisme que, assurément, on reconnaît une canaille.
Bonjour, nous sommes mardi matin sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman. Je m'appelle Grégory Tailleur, je vais vous parler de mon premier roman, D'une vie à l'autre, et vous en lire un extrait. Mais pour commencer, je vais vous raconter brièvement mes débuts sur cette planète. Alors voilà, je suis arrivé dans ce monde dans les années 70, à la fin des 30 Glorieuses. C'était le premier choc pétrolier. Le prix de l'essence flambait, mais les gilets jaunes n'existaient pas encore. Bon, c'est peut-être parce qu'il n'y avait plus d'essence qu'ils ne pouvaient pas se rassembler. À cette époque, mes parents s'en foutaient un peu. Ils n'avaient pas de voiture. Je suis né d'une mère rêveuse et d'un père ancré dans la réalité. Une enfance heureuse entre papier peint à fleurs oranges et pantalons de velours côtelés rouges. On écoutait du Brel sur notre tourne-disque. Et c'est sur le titre « Ces gens-là », pourtant pas si drôle, qu'on rigolait à faire exagérément du bruit en mangeant notre soupe tel un karaoké. Un jour, ma mère et moi rentrions des courses, et je surpris mon père jouant avec quelques-uns des jouets qu'il m'avait achetés la veille. À ce moment-là, j'ai vu pour la première fois, avec joie, l'enfant qui se cachait derrière cet adulte sérieux. Dans les années 80, nous avons eu notre premier magnétoscope. notre télévision était aussi large que profonde, une qualité d'image médiocre et pas de télécommande. Mais c'était génial. Nous pouvions regarder et enregistrer des films à volonté. J'étais fasciné par le cinéma. Je ne sais pas à quel moment c'est arrivé exactement, mais des histoires commençaient à naître et à se bousculer dans ma tête. Parfois, mon immersion était si intense que j'avais le regard dans le vide, immobile. Je me suis mis à écrire, et à écrire encore pendant des années et des années. Pourquoi? Eh bien déjà pour pouvoir faire de la place dans ma tête, et puis aussi pour pouvoir les relire, les revivre. Quelques décennies plus tard, en relisant quelques-unes de mes nombreuses histoires, une nouvelle se construisait tout doucement dans ma tête. Étrangement bien plus vaste que toutes les nouvelles que j'avais l'habitude d'écrire, cette histoire prit la forme d'un roman. Après une petite année d'écriture, d'une vie à l'autre était née. Cette histoire peut se lire de deux façons. La première, une lecture à la feel good, on se laisse embarquer dans cette aventure mêlant romance et surnaturel. La deuxième, si vous êtes attentif aux moindres détails, même anodins, vous y trouverez un tout autre univers.
Passons maintenant à la lecture d'un extrait choisi dans le premier chapitre. Pour la petite anecdote, il est basé sur des faits réels, tant sur certains personnages que sur les événements, mais je n'en dis pas plus. Allez, c'est parti.
Cela fait presque une heure que le paysage apocalyptique défile dans un vacarme mêlant les bruits extérieurs et ceux de la cabine de ce camion, dont la carlingue tient par on ne sait quel miracle. Un crucifix, à l'extrémité d'un chapelet accroché au rétroviseur central, se balance tel un métronome. L'intérieur du véhicule est aussi délabré que l'extérieur. Le tableau de bord est complètement déformé, probablement à cause de la chaleur. Frank tourne la tête vers le chauffeur, qui semble assis sur un ressort et dont le ventre est si gros qu'il frotte sans arrêt le cerceau du volant. C'est encore loin ? Quoi ? Dit le chauffeur. C'est encore loin ? Dit Frank en criant pour couvrir le bruit ambiant de l'habitacle. Non, nous sommes bientôt arrivés. Sa main droite est agrippée à la poignée de la porte et l'autre est posée à plat, à côté de lui, essayant d'amortir au mieux les rebonds du siège dont les ressorts sont aussi souples qu'une pierre. Regardant à travers la vitre de droite, Frank est quelque peu troublé par le contraste entre le paysage qui défile sous ses yeux et celui de New York, quand il était dans le taxi sur le chemin de l'aéroport. Devant ce décor surréaliste, il repense à la discussion qu'il a eue avec cet homme au chapeau noir, se demandant ce qu'il va découvrir là-bas. Une angoisse l'envahit. La transpiration commence à perler sur son front. Une goutte lui coule le long de la tempe, puis sur la joue, pour finir sa course sur son t-shirt. Brusquement, le camion s'arrête en soulevant une nappe de poussière. « Nous sommes arrivés, je vais sortir le matériel. » À peine sorti de ses pensées, Frank descend et s'adresse au premier venu, qui semble être un paysan. « Monsieur, pourriez-vous me dire où se trouve la fillette ?»« Oui, je dois m'y rendre aussi. Venez, il faut marcher un peu, c'est juste derrière ces tas de béton, là-bas. » Suivi de près par le chauffeur du camion qui a les bras chargés de matériel, le paysan et le journaliste marchent au milieu de ce qui fut autrefois un village. Ce n'est qu'au détour d'un bâtiment en ruine que Frank aperçoit un groupe de secouristes ainsi que des villageois qui s'affairent autour d'une sorte de trou ressemblant à un cratère rempli d'eau boueuse. Au fur et à mesure qu'ils s'approchent, ils commencent à voir la tête de la fillette qui dépasse tout juste du niveau de l'eau. Devant elle est installé un support de fortune, un grand bâton de bois afin qu'elle puisse se tenir pour soulager son dos. Ses jambes sont coincées dans le fond par un enchevêtrement de débris de briques et de béton. Elle est coincée depuis 3 jours maintenant, dit le paysan. Vous dites ça comme si elle allait mourir, rétorque Frank, qui commence à sentir la colère monter en lui. Les secouristes ont d'abord envisagé de l'amputer, mais ils n'ont pas le matériel adéquat et il semble que la pompe à eau que vous avez apportée ne fonctionne pas bien, rétorque le paysan. C'est pas possible, mais c'est pas possible, il y a forcément quelque chose à faire, dit Frank, scandalisé. En plus de son état de fatigue, la gangrène s'est déjà propagée. C'est pour ça qu'elle dit des choses qui n'ont plus de sens, dit le paysan, résigné. Au milieu des gravats, sans le matériel nécessaire, Frank, dépité, commence à comprendre ce que voulait dire cet homme au chapeau noir, au Coumandé Café. Forcé de constater qu'il serait le témoin impuissant de cette destinée macabre, il prend son appareil photo et, dans un geste machinal, en ajuste les réglages. Il s'avance en faisant attention de ne pas trébucher sur tous les débris qui jonchent le sol. Il attrape des deux mains son appareil photo accroché en bandoulière autour de son cou et le remonte lentement vers son visage, mais il marque une pause en plissant les yeux. Il lui semble apercevoir une tache sur la tempe gauche de la fillette qui ressemble à une ellipse à l'intérieur de laquelle se trouve un petit cercle. Après un dernier regard vers cet enfant aux yeux remplis de tristesse, Franck plonge son œil dans le viseur et fait ce qu'il sait faire. Des séries de petits cliquetis retentissent à chaque pression de son index droit, pendant que la mort fait inexorablement son œuvre.
Une mise en bouche surprenante et bien mystérieuse. Comme je vous le disais avant cette première lecture, les faits sur lesquels je me suis appuyé ont été réellement dramatiques. C'était en 85, certains s'en souviendront peut-être. Moi, je n'avais que 12 ans, soit un an de moins que cette petite fille. J'ai été littéralement choqué par cet événement. Les budgets alloués pour la couverture médiatique étaient pharaoniques. D'ailleurs, ça a fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Tout cela pour voir une petite fille mourir en direct. C'est tout simplement indécent. Tout comme Franck, mon esprit ne voulait pas croire ce que mes yeux voyaient. Et pourtant, cette petite fille mourait devant lui, devant moi. Vous allez me dire pourquoi avoir romancé un événement pareil. Pour tout dire, j'ai pas mal hésité. Et puis plus j'avançais dans l'écriture de cette partie, plus ça faisait sens dans l'histoire. Finalement, elle est devenue le point de départ de quelque chose de plus grand. Avec du recul, probablement que je refusais qu'une vie puisse se finir ainsi. Allez, autre lieu, autre décor. Je vous laisse découvrir le second extrait choisi.
Roulant dans un trafic dense pendant 40 minutes, elle finit par arriver à destination et trouve tant bien que mal une place pour se garer. Avec son ordinateur portable à la main et son sac personnel en bandoulière, elle longe le côté de cet hôtel à la façade de style baroque jusqu'au premier carrefour. Quand Inari tourne dans la rue qui donne sur l'entrée de l'hôtel, elle aperçoit deux hommes en sortir précipitamment avec un brancard. Absorbée par cette scène inhabituelle, elle manque de trébucher dans une flaque de matière visqueuse étalée sur le sol. Avec un air dégoûté, elle s'appuie sur le mur en essayant d'enlever de ses chaussures cette gélatine immonde de couleur verte dont elle n'ose imaginer la provenance. Enveloppée dans une couverture de survie, les cheveux blonds cendrés dégoulinant d'eau sur le trottoir, cette femme semble paisible. Inari se faufile entre deux battants de la grande porte tournante de l'hôtel, tout en regardant le camion rouge flamboyant des secours s'éloigner dans un flot de circulation, suivi de l'écho rugissant du chant des sirènes. Dans ce hall magnifique, de grandes colonnes de marbre s'élèvent jusqu'au plafond. Le sol, quant à lui, est composé de dalles de granit dans lesquelles se reflète cet incroyable lustre aux mille et une pièces de verre, le tout orné de lampes bougies. Regardant tout autour d'elle, subjuguée par la beauté des lieux, Inari se dirige vers la réception. Derrière ce comptoir aussi impressionnant que le reste, un homme au visage rond et arborant un sourire avenant se tient bien droit dans son élégant costume. « Bonjour, madame, que puis-je faire pour vous ?»« Je suis envoyée par la société de maintenance de votre système de télésurveillance. Je dois faire le contrôle de tout votre système. Il semble que vous ayez des problèmes techniques. »« Oui, effectivement, on m'a prévenu de votre venue. Un instant, je vous prie, je vais chercher votre carte magnétique. » Accoudée au comptoir de la réception, Inari ne se lasse pas d'admirer la décoration qui tapisse les murs, quand une odeur particulière vient la sortir de ses pensées. Un mélange de fleurs, dont elle n'arrive pas à retrouver le nom, et une curieuse odeur de soufre. Elle tourne légèrement la tête sur sa gauche. Un homme vient de sortir de l'escalier de service et arrive dans sa direction. À mesure qu'il se rapproche, l'odeur devient de plus en plus forte. Elle le regarde discrètement du coin de l'œil. Il fait un bon 1,80 m, avec un corps mince et filiforme. Ses cheveux sont tirés en arrière et sont aussi noirs que ses yeux. Son visage arbore un bouc de type Van Dyck qui lui donne une allure d'un autre temps. Inari a beau essayer, elle n'arrive pas à le quitter des yeux. Lui ne semble pas l'avoir remarqué en passant devant elle. Il finit par disparaître derrière les portes tournantes de l'entrée de l'hôtel.
Quand j'ai eu l'idée de cette histoire, je souhaitais traiter le sujet du libre arbitre, entre autres. C'est une question qui m'a toujours intéressé. Le fait de prendre telle ou telle décision et d'en accepter les conséquences. Et ensuite, de se dire, est-ce vraiment moi qui ai pris cette décision? Ou était-ce déjà écrit? Et surtout, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pris une autre décision? Je suis sûr que vous vous êtes déjà posé au moins une fois la question, non? Ce qui nous amène à ces deux types de personnes. Celle qui croit fermement au déterminisme, au fait que tout est écrit, et celle pour qui l'idée de ne pas avoir leur libre arbitre est juste impensable. Dans mon roman, mon intention n'est ni de remettre en question ces deux croyances, ni les personnes qui y croient. Étant ouvert à toutes les possibilités, et aussi parce que j'ai une imagination débordante, j'ai abordé ce sujet d'un point de vue différent, avec un petit quelque chose de fantastique. Allez, changeons encore de lieu et de décor, mais aussi d'axe temporel. Cet extrait choisi se passe environ 10 ans plus tard.
La porte vient de se refermer derrière elle. Seule sur ce palier, elle est toujours bouleversée, mais se sent plus légère, comme d'habitude après chaque séance avec Ariane. Sa main glissant sur la rampe de bois verni, elle descend lentement les marches de cet escalier qu'elle connaît bien. Ses souvenirs se bousculent encore dans sa tête, mais elle ne peut s'empêcher de repenser à ce jeu avec lequel Ariane a fait une analogie pleine de bon sens. Laisser le temps au temps, quand on n'a plus rien à offrir, c'est difficile à concevoir pour Lilith. Cela revient à un semblant de vie dont l'espoir est le seul réconfort. Rien que d'y penser, cela lui fait froid dans le dos. Finalement, elle est bien loin de trouver sa véritable place. Arrivée en bas, Lilith appuie sur le bouton pour déverrouiller la porte. Sur le trottoir, elle regarde autour d'elle, puis lève la tête en fermant les yeux afin d'apprécier la douce chaleur du soleil sur son visage. Quand elle rouvre les yeux, elle décide de longer le jardin du Luxembourg plutôt que des immeubles. Un coup d'œil à gauche puis à droite, puis de nouveau à gauche, et la voilà aussitôt de l'autre côté de la route. Tout en marchant, elle observe à travers les barreaux la magnifique végétation de ses jardins, vestige du passé. Soudain, elle s'arrête net, puis recule doucement de deux pas. Le regard fixe, elle saisit un des barreaux pour ne pas chanceler pendant que son visage se décompose de stupéfaction. Ce n'est pourtant pas la première fois qu'elle la voit, mais Lilith reste quand même figée pendant plusieurs minutes. La voix de la raison s'évapore, couverte par l'écho des battements de son cœur. Elle finit par faire demi-tour pour trouver l'accès au jardin le plus proche. D'un pas rapide, elle passe le portique de l'entrée et se dirige vers cette personne qui suscite sa curiosité. Au fur et à mesure qu'elle s'en approche, son pas ralentit, mais son pouls s'accélère. À 30 mètres, au milieu d'une multitude de chaises métalliques vertes éparpillées, une superbe femme assise sur l'une d'entre elles sous un arbre massif, la main posée sur son tronc, le visage fermé et le regard dans le vide. Sans faire de bruit, Lilith s'approche jusqu'à se présenter devant cette femme qui semble tellement perdue dans ses pensées qu'elle ne lève même pas les yeux. Lilith attend quelques instants, puis s'accroupit pour croiser son regard et ainsi tenter d'attirer son attention. « Bonjour, » tente Lilith timidement. N'obtenant pas de réponse, Lilith insiste. « Bonjour !»« Bonjour, mais qui êtes-vous ? Je m'appelle Lilith. Je suis désolée de vous déranger, mais cela fait plusieurs fois que je vous vois ici et... » « Comment ça, plusieurs fois ? Vous me suivez ? Non, non, pas du tout !» J'ai rendez-vous 2 fois par mois rue Guinemer, et en sortant, je vous ai aperçu plusieurs fois sans avoir le courage de venir vous parler. « Mais pourquoi voulez-vous me parler ?» répond la femme en s'appuyant sur le dossier de sa chaise. « Puis-je m'asseoir ? Faites, c'est un jardin public. » Lilith saisit la chaise la plus proche et la place juste devant cette femme qui n'a toujours pas décollé sa main de l'arbre. Comme je vous le disais, je vous ai vu à cette place à chaque fois que je suis sortie de mon rendez-vous. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Je vous trouve excessivement belle, dit Lilith, gênée. Eh bien, c'est gentil. Qu'est-ce que je peux répondre à ça ? Répond la femme, surprise mais absolument pas choquée. Rien. Je voulais juste vous le dire. Voilà, c'est fait. Il y a autre chose, si ce n'est pas trop indiscret. Toutes les fois où je vous ai vu ici, la main posée sur cet arbre, vous aviez l'air en souffrance, tout comme aujourd'hui. Pourquoi ? Effectivement, c'est indiscret. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la vie ne m'a pas épargnée, soupire la femme. Alors, je suis faite pour vous comprendre, dit Lilith, en plongeant ses grands yeux verts dans les yeux bleus de cette femme. Vous me semblez bien jeune pour pouvoir prétendre cela. Croyez-moi, si je vous racontais mon histoire, vous seriez surprise. Racontez-moi, dit-elle, intriguée. Ravie d'avoir attiré l'intérêt de cette femme, Lilith propose à son interlocutrice de se tutoyer afin de réduire un peu plus la distance imposée par le vouvoiement. Celle-ci accepte sans discuter. Pour faire court, j'ai perdu ma mère d'un cancer quand j'étais petite, et depuis je suis terrorisée à l'idée de perdre mon père. Adolescente, j'ai fait l'amour avec un garçon dans les toilettes d'une boîte de nuit, et je me suis réveillée à l'hôpital, où les médecins m'ont dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. « Ah, quand même !» réagit la femme, abasourdie par ce qu'elle vient d'entendre. « Et sais-tu pourquoi je viens deux fois par mois à cette adresse depuis plusieurs années ?»« J'ai une vague idée. Je viens voir ma psychologue pour ne pas sombrer dans la folie. » Visiblement moins sur la défensive, la belle blonde se rapproche et lui prend délicatement la main. S'efforçant de dissimuler ses émotions face à ce geste de tendresse, Lilith reste immobile, le buste bien droit dans sa tunique rouge. « Il faut te méfier des hommes. La plupart sont des porcs, crois-moi. »« Ah bon ? Raconte-moi ton histoire, s'il te plaît, » demande Lilith, curieuse. « Je ne suis pas sûre que ça te plaise. »« S'il te plaît, je ne te jugerai pas. »« Je suis Colger. Et à ce titre, quand je te dis que la plupart des hommes sont des porcs, ce n'est pas juste une idée, c'est la réalité. » Mais pourquoi fais-tu cela? Et surtout, pourquoi tu continues à le faire? Ah, si l'on m'avait donné 1 euro à chaque fois qu'on m'avait posé cette question, je serais riche aujourd'hui. Excuse-moi, c'était une question stupide, mais je voudrais comprendre comment tu en es arrivé là. En fait, c'est venu à moi naturellement. Quand j'étais très jeune, mon corps a suscité un vif intérêt pour la gente masculine. Je ne sais plus quand ça a commencé, et même si j'ai vraiment fait le choix de ce métier. Enfin, toujours est-il qu'on me donnait beaucoup d'argent pour cela, et quand tu es jeune, tout cet argent te fait tourner la tête. Ensuite, la vie fait que tu deviens très vite esclave de tout cet argent, et, sans même t'en rendre compte, les années passent. Et puis un jour, tu arrives à la trentaine, sans avoir vu passer ta vingtaine, sauf que ton âme souffre toute la douleur du monde. À tel point qu'un jour, après qu'un client y ait été un peu plus brutalement que d'habitude, j'ai tenté de mettre fin à mes jours, finit-elle en s'adossant sur sa chaise. Très émue, Lilith laisse échapper une larme qui glisse sur sa joue et passe à côté de ses lèvres qui tressaillent légèrement. « Ne pleure pas, il n'y a pas de quoi. Je suppose que je mérite tout cela. »« Mais comment peux-tu dire ça ? Personne ne mérite une chose pareille, » dit Lilith, à la fois outrée et désolée. « Probablement que mon prénom me prédestinait à servir l'homme, à assouvir tous ses désirs, aussi lubrique soit-il. » « Quel est ton prénom ?»« Ève. »« Ève, j'ai l'intime conviction que nous sommes arrivés toutes les deux à un carrefour important de nos vies. »